Il n'est pas rare d'entendre des commentaires dans les églises qui jugent de façon négative cette communauté qui est restée à Babylone. Et on les prend pour l'exemple. Vous voyez ce qui se passe quand on prend trop goût à la vie, à la société, à ce monde, on finit par ne plus vouloir aller là où le Seigneur nous demande. Ils sont restés à Babylone parce que finalement, ils se sont tellement mélangés que Babylone, c'était bien. Alors, quand Dieu parle, on ne l'écoute plus. Mais qui leur avait dit de prospérer à Babylone? Le Seigneur. Qui leur avait dit d'avoir des enfants? Le Seigneur. Qui leur avait dit de marier leurs enfants? Le Seigneur. Qui leur avait dit de programmer et de préparer une vie de paix, de bénédiction pour la nation de Babylone? Le Seigneur. Alors, de quel droit pourrions-nous les juger comme étant des mauvais croyants parce qu'ils sont restés à Babylone? Voilà les groupes de personnes, voilà le peuple dont le livre d'Esther parle. Et la Bible ne fait aucun jugement de valeur concernant les personnes qui sont restées à Babylone. Mais très souvent, nous autres, nous le faisons. Très souvent, nous autres, nous faisons des jugements de valeur là où la Bible n'a rien dit. Mais voilà, on est dans cette histoire. Esther, sa famille, elle est orpheline. Et en tout cas, elle est à Babylone. Bien sûr, l'histoire qu'on va suivre en ce moment rapidement n'est pas une histoire facile. Et certains pourraient être tentés à dire, mais bien fait, il n'avait qu'à rentrer en Israël. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible n'enseigne pas cela. La Bible, le récit d'Esther, va nous raconter comment ce peuple juif fera face à la situation difficile et comment ils vont réussir à la surmonter. Quel était le contexte dans lequel Esther vivait? Et quand je parle du contexte, ce n'est pas simplement le contexte à Babylone, mais surtout le contexte à la cour. Mais si vous allez jeter un coup d'œil dans le livre d'Esther, vous allez voir que le livre d'Esther commence de façon formidable. On dirait un conte de fées. Le roi, il est tellement content, la Bible ne nous dit pas pourquoi, mais il va faire une fête hallucinante, longue. Et pour conclure en apothéose, les 7 derniers jours de la fête, toute la citadelle de Suse, où était transladée la capitale de l'Empire, ce n'était plus l'Empire babylonien, mais celui qui l'a succédé, et ils sont, toutes les personnes de la citadelle ont été conviées à une fête donnée par le roi. Et il a dit, il ne faut pas qu'il manque à boire et à manger pour tout le monde. Pas content avec cela, le roi va inviter tous les hommes de la citadelle à faire la fête avec lui. Quand est-ce que vous avez entendu parler de cela ailleurs? Un roi qui soit aussi ouvert pour faire la fête. Avec tout le monde, je veux dire. Et la reine, la Bible va nous dire, la reine, elle a fait de même avec toutes les femmes de la citadelle. Faire la fête entre femmes, c'est formidable. C'est un début d'histoire fantastique. Mais le verre était déjà dans la pomme. Il a suffi que le roi boive un peu trop, qu'il devient ivre, qu'il va dire, voilà, j'ai vu que ma femme vienne pour que tout le monde puisse l'admirer. Attention, hein, il ne s'agissait pas de simplement venir dire, bonjour, regardez-moi, je suis la princesse, je suis la reine. Non, à l'époque c'était, viens et montre-toi pas en tenue de reine, mais en tenue d'Ève. Ou presque. Il faut qu'on t'admire. Ça fait penser un peu à la fille d'Hérodias, hein, la belle-fille d'Hérode, qui a dansé devant lui et c'est convive. L'invitation du roi à la reine Vasti était l'invitation à venir se montrer devant le parterre de tous les hommes de la citadelle, ivres morts, qui n'ont plus le contrôle de leurs actions, de leurs décisions. C'est à quoi la reine a osé dire non. Elle a mis sa dignité en tant que personne avant toute autre chose. Elle a osé dire à son mari, le roi, non. parce qu'elle n'était pas un objet dont il fallait se vanter devant les autres. C'est une personne. Quelle femme! La Bible nous dit son nom, Vashti, et Vashti veut dire belle femme. Et quand la Bible insiste sur quelque chose, sur une qualité, c'est parce que c'était quelque chose de formidable. Cette femme devait être vraiment belle, non seulement extérieure, mais intérieurement aussi. Et bien sûr, les hommes, le roi, ses conseillers, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas possible. Et le roi va demander, si vous regardez dans la Bible, qu'est-ce que la loi prévoit pour des choses pareilles? Et ses conseillers ne vont pas aller voir la loi, mais ils vont simplement dire, on ne se souvient pas qu'une femme ait eu le courage, l'indécence, de dire non à son mari. Donc, à partir de maintenant, il n'y a peut-être pas de loi, mais on va faire jurisprudence. Il faut que le roi signe une nouvelle loi. Cette loi dit que l'homme est maître de sa femme à la maison. Plus aucun droit pour les femmes à la maison. Tout ce que le mari veut, on dirait que ces hommes-là, ivres, avaient besoin de se sentir plus, je ne sais pas, masculin, plus homme, je ne sais pas. Vashti va perdre son trône. Les femmes de tout l'empire vont savoir qu'elles n'ont plus de droits. Bien sûr, après un certain temps, la Bible dit, le roi va dire, oh purée, je pense que j'ai fait une erreur. Mais il va suffire qu'on lui dise, écoute, on va te présenter un catalogue grandeur nature des femmes et tu pourras chercher une nouvelle prince, une nouvelle reine. Et ça a été pour lui, c'est bon, c'est fini. Et son remords, passé. C'est là qu'Esther devient reine. Dans une cour où un jour on t'aime et l'autre jour on te déteste. C'est son milieu. C'est là où elle habite, où elle a choisi d'habiter. Alors, quel est le problème de vivre à Babylone quand on est un juif? Voilà le cadre. Babylone, c'était un pays païen, ok, idolâtre, polythéiste. La peur était que, en tant que juif, si tu restes à Babylone, tu finisses par abandonner ta foi, tu finisses par intégrer à ta foi des éléments étranges, des éléments païens, et donc que tu finisses par vivre une foi syncrétiste, pas tout à fait pur, si l'on voudrait. Et c'est vrai que le risque est grand. Mais de ce que la Bible nous raconte, le peuple d'Israël, en terre d'Israël, n'a pas fait mieux. Nous savons que tout le long de l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à l'exil, ils ont adoré le Seigneur, mais en même temps, ils adoraient aussi d'autres divinités. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, le Seigneur envoyait des prophètes et des prophètes et des prophètes pour leur dire, mais arrêtez. À un moment donné, il va leur dire, mais vous êtes pire que les peuples païens. Les peuples païens, ils sont leur Dieu et ils restent fidèles à leur Dieu. Mais vous, vous êtes infidèles à moi, vous prenez à droite, à gauche d'autres dieux. Donc, cette peur, finalement, était-elle aussi bien fondée? Oui, mais elle ne justifiait pas tout. Babylone, entre-temps, n'y est plus. Mais elle était déjà passée, elle est déjà passée dans l'histoire du peuple d'Israël comme le symbole de ceux qui s'organisent pour aller à l'encontre de la volonté divine. Le symbole de ceux qui vivent, pas comme le Seigneur le désire, de ceux qui pensent, pas comme le Seigneur le désire, de ceux qui agissent, pas comme le Seigneur le désire. Ça reste ce symbole, Babylone. D'où que, lorsque la Bible nous dit « Sortez de Babylone, mon peuple », il ne parle pas de sortir d'un lieu physique, spécifique, réel, parce que Babylone n'existe plus. Ce qu'il demande, c'est sortir d'une façon de penser, d'un système de pensée, d'une façon d'agir, de concevoir les choses et de vivre orienté vers le Seigneur. Parce que tu peux sortir de Babylone si tu considères que les grandes villes sont Babylone. Mais si là-dedans, Babylone est installée, ça ne change rien. Regardez Lot et ses filles. Ils sont sortis de Sodome et Gomorre. Ça ne les a pas avancés à beaucoup. Continuons. Il y a des exemples aussi. Joseph en Égypte. Daniel à Babylone. Abraham à Canaan, ils étaient au beau milieu des endroits païens, rien n'a fait. Ils sont restés fidèles à leurs convictions. Et le moment venu, ils ont été même capables de dire, même si je dois mourir, je mourrai. Mais ici, j'ai tracé une ligne que je ne peux pas dépasser. Mais attention, attention de dire, voilà, s'ils ont réussi, moi aussi, je peux rester là où je veux sans problème. Ce n'est pas aussi facile que ça. Ce n'est pas aussi facile que ça, aussi facile que ça. C'est vrai que le peuple d'Israël est resté une grande partie à Babylone, mais n'ont pas resté à Babylone seulement comme un groupe ethnique, mais sont restés soudés comme un groupe de foi, une communauté de foi avec des objectifs spirituels. Ça, c'est resté quand même très fortement ancré dans leur tête. Il y a des personnes que parfois j'ai rencontrées et que je rencontre qui ont quitté les églises. Qui ont quitté les églises pour X ou Y raisons, peu importe. Et qui disent, j'en ai marre, j'en ai ma claque, c'est fini, je quitte l'église, je veux continuer à être croyant, je veux continuer à développer ma foi, mais de mon côté, tout seul. Il faut faire attention. Parce que même si la foi est une affaire personnelle, elle n'est pas une affaire individualiste. Ma foi est personnelle, mais je ne peux pas la vivre seule. Le Seigneur n'a pas conçu l'expérience avec lui comme une expérience centrée sur moi-même et mon nombril. La foi est une expérience de communion, mais au sens large, avec Dieu et avec ceux qui m'entourent. Je ne peux pas dire je suis un bon chrétien alors que je m'écarte de mon église et de la société qui m'entoure, parce que le rôle de la communauté des croyants est indispensable pour que ma foi se développe. Mon contact avec les autres à l'extérieur de l'église est indispensable pour que ma foi puisse grandir. Il faut que j'apprenne à voir le Seigneur agissant et dans l'église et à l'extérieur de l'église. C'est en contact avec ces réalités que nous pourrons croître en tant que croyants. Les Juifs du livre d'Esther n'ont pas cessé, je répète, d'être une communauté spirituelle. Donc il ne faut pas aller prendre les exemples de Daniel, d'Abraham, de Joseph, là où ils étaient, pour dire, voilà, moi je peux le faire tout seul. Parce que jamais ça se fait tout seul. On a besoin de la communauté, on a besoin de l'Église. Que je me souvienne, il n'y a aucun personnage biblique qu'à un moment donné ait dit « J'en ai ma claque de ce peuple Israël, je pars, je m'en vais. » Si, il y en a un, le prophète Élie. Vous vous rappelez? À un moment donné, il s'enfuit. Il ne veut plus rien savoir d'Israël. Et Dieu va aller à sa rencontre. Et Dieu va lui permettre, c'est étonnant, de s'enfuir encore plus loin. Jusqu'où? Jusqu'à l'endroit où il pourra le rencontrer. Personnellement. Comme ça, comme Élie peut-être le souhaitait à un moment donné. Moi et mon Dieu et personne d'autre. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit à Élie? Vous vous rappelez? Retourne vers le peuple. Retourne vers ton peuple. Ici, ce n'est pas ta place. Notre place en tant que croyant, ce n'est pas seul. Notre place, c'est au milieu de la communauté de foi, dans l'Église. Donc, si à un moment donné, l'idée te vient de vivre ta foi tout seul, loin de l'Église, je t'invite à reconsidérer ta position et à revenir vers l'Église. Bon. Allons vers Esther et vers la fin de ce message. Nous disions qu'Esther devient la reine de l'Empire. Et on pourrait dire qu'elle vit un conte de fées jusqu'à ce qu'une loi soit promulguée pour dire, voilà, tous les Juifs du pays doivent être éliminés. Tous. Je vais faire la lecture. C'est quand même assez long. Au chapitre 3 d'Esther, je vais lire du verset 8 au verset 15 pour qu'on puisse se mettre à nouveau dans le bain, dans l'idée, dans le contexte. Verset 8, Aman dit au roi Xerxès, il existe un peuple dispersé dans toutes les provinces du royaume. Et c'est important de le signaler. toutes les provinces du royaume. Le royaume, l'empire, incluait aussi le peuple d'Israël, sur terre d'Israël, ok? Il existe un peuple dispersé dans toutes les provinces de ton royaume. Ils vivent à part, ils suivent des lois qui ne ressemblent pas à celles d'aucun autre peuple et ils n'obéissent pas aux lois royales. Tu n'as pas intérêt à les laisser tranquilles. Si le roi les juge bons, qu'il donne par écrit l'ordre de les exterminer. Je remettrai alors des centaines de tonnes d'argent aux fonctionnaires chargés de l'administration du royaume pour qu'ils les déposent dans le trésor royal. Le roi enleva son anneau et le remit à l'ennemi des Juifs, Aman, fils de Hammedata, descendant d'Agag. Il lui dit, « Puisque tu en as les moyens, fais à ce peuple ce que tu voudras. » Le 13e jour du premier mois, les secrétaires royaux furent convoqués. Selon les indications de Aman, ils écrivirent les lettres et les adressèrent aux représentants du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple. Elles s'étaient rédigées dans tous les systèmes d'écriture et dans toutes les langues utilisées dans le royaume. Ce fut écrit au nom du roi Xerxès et cacheté avec l'anneau royal. Des messagers furent chargés de porter ces lettres dans chaque province du royaume. Elles donnaient l'ordre de détruire, de tuer, de massacrer tous les juifs, jeunes et vieux, femmes et enfants, et de piller leurs biens. Cette extermination devait être réalisée un jour précis, le 13e jour du 12e mois, le mois nommé Adar. Dans chaque province, la lettre reçue devait avoir force de loi et être portée à la connaissance de tout le monde, afin que chacun soit prêt à agir au jour fixé. Sur l'ordre du roi, les messagers partirent à toute vitesse. Le décret fut aussi publié dans la citadelle de Suse. Le roi et Aman s'installèrent pour boire, tandis que les habitants de la ville de Suse étaient horrifiés. Voilà le contexte. On ordonne l'élimination de tout un peuple et le roi ne trouve rien de mieux que de s'asseoir pour boire, pour célébrer la bonne décision. Où pouvait-il fuir les Juifs? Sortir de quelle ville pour aller dans quel autre lieu, alors que l'extermination était impériale, un ordre impérial? Les Juifs de Suse se sont-ils enfuis alors que l'ordre a été donné et qu'il y avait encore le temps jusqu'au moment où ça devait se faire? Pas du tout. Chapitre suivant, parce que l'histoire, elle devient de plus en plus difficile. Mardochée, rappelez-vous, c'était l'oncle d'Esther. Mardochée apprit ce qui s'était passé. Il déchira ses vêtements, se vêtit d'une étoffe de deuil et répandit de la cendre sur la tête. C'était la façon à l'époque de dire « Je suis profondément triste ». Il parcourut la ville en poussant des grands cris de douleur. Arrivé devant la porte du palais royal, il s'arrêta, car personne n'avait le droit d'y pénétrer en tenue de deuil. Dans chaque province du royaume, partout où les décrets royaux étaient parvenus, les Juifs furent plongés dans un grand accablement. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Beaucoup d'entre eux revêtaient des étoffes de deuil et se couchaient sur de la cendre. Les servantes et le eunuque de la reine Esther vinrent lui raconter ce qu'ils avaient vu et elle trembla de tout son corps. Est-ce que vous avez déjà tremblé de peur dans votre vie? Moi, une fois. J'étais jeune, je travaillais, j'étais étudiant en Italie, c'était aussi un internat. Et à l'internat des garçons, on m'avait donné une responsabilité, je devais veiller, j'étais le sous-précepteur. Le précepteur, c'est celui qui gère la vie dans l'internat des garçons. Il y avait des personnes, des jeunes qui venaient en réinsertion dans la société après une peine de prison. Il y avait un jeune là qui était là, qui devait travailler, on avait des horaires précis, à un tel moment tu viens prendre ton repas, parce qu'après on ferme la cuisine, etc. Et lui, au début, il était bien, bien sage, mais après, quand il a pris ses aises, il a commencé à dire « Oui, mais j'arrive 5 minutes après, c'est pas grave, 10 minutes après. » Mais sachant que c'était jusqu'à 10 heures du soir qu'il pouvait prendre ses affaires, parce que moi j'avais l'accès au grand frigideur de l'institution, mais après il fallait fermer, on fermait tout. Et je me rappelle la fois où il est arrivé, je lui ai dit « Il faudra venir parce que c'est bientôt l'heure. » « Oui, pas de souci. » Il est sorti, il faisait tout ce qu'il voulait. À un moment donné, moi j'ai fermé à l'heure, il arrive plus tard. Il m'a dit « Donne-moi à manger. » J'ai dit « Non, c'est fini. Donne-moi à manger. » maintenant, c'est fini. Et il s'est fâché. J'ai tenu bon. Le directeur de l'école passait par là. Il a demandé qu'est-ce qui se passe, parce qu'il commençait à crier. Je l'expliquais. Il lui a demandé est-ce que c'est correct. Oui, c'est correct. Tu ne pourras pas avoir à manger. Il y a des règles. Ce garçon est parti le jour d'après, sans son repas pour sa journée. Et il est revenu. Et quand il entrait dans l'institution, j'étais par là et j'ai vu le regard qu'il m'adressait. Et je me suis enfoui dans ma chambre, j'ai fermé à clé. Et j'ai entendu comment il a suivi jusqu'à ma porte. Il est resté un moment, il est parti. Un jour, je l'ai croisé en ville. Et rien que de le croiser en ville, sachant son passé, très violent. Rien qu'à le voir en ville, je me suis mis à trembler de peur. Ce n'était pas contrôlable. Esther tremblait quand elle a appris ce qui allait se passer. Elle envoie dire à son oncle, « Mais arrête! Arrête ça !» Son oncle, à l'heure, c'est là qu'il va lui dire, et il va l'envoyer le message par ses eunuques, « Voilà ce qui a été décrété. Voilà ce que le roi a pensé de faire au peuple d'Israël. » Verset 7, Mardoché le mit au courant des événements. Il lui parle à cet le messager de la reine, en particulier de la somme d'argent que Amon avait promis de verser au trésor royal en vue de faire disparaître tous les Juifs. Il lui donna le texte du décret publié à Suse en vue de l'extermination des Juifs. Il lui demande de renseigner Esther sur la situation en lui montrant ce texte. Attaque, et c'était le messager d'Esther, devait aussi lui ordonner de se rendre auprès du roi pour implorer sa grâce et plaider la cause de son peuple. Attaque informa Esther de ce qu'avait dit Mardoché. Verset 10, Esther lui ordonna de rapporter la réponse suivante à Mardoché. « Tout le monde, des serviteurs du roi aux habitants des provinces du royaume, connaît la loi qui s'applique à toute personne, homme ou femme, qui se rend auprès du roi par la cour intérieure sans avoir été convoquée. Cette personne va mourir. Elle n'a la vie sauf que si le roi lui tend le sceptre d'or. En ce qui me concerne, je n'ai pas été invité à me rendre auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque Mardoché reçut cette réponse d'Esther, il lui fit dire, c'est nos versets du début, « N'espère pas d'échapper toi seul au sort des Juifs parce que tu vis dans le palais. Si tu t'étais dans les circonstances pressantes, penses-tu que les Juifs seront sauvés en recevant de l'aide d'ailleurs ?» Non. Mais toi et ta famille, vous mourrez. Mais qui sait? Peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. Peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. Pour faire court, est-ce que Esther était au mauvais endroit au mauvais moment? Non. Mais elle était une juive dans la capitale de l'empire plus grand païen de l'époque. Qui plus est, elle était reine. Pour faire encore plus court, c'est magnifique sa réponse, intercédant ma faveur. Je vais me présenter au roi pour plaider notre cause. Et si je dois mourir, que je meure. C'est une situation dramatique. Même elle n'est pas en sécurité. Elle ne peut pas s'attendre à l'aide de l'extérieur. Le mot d'ordre, c'est « Tous les Juifs doivent être éliminés. » Tout ce qui lui reste, c'est d'assumer qu'elle est là. Tout ce qui lui reste, c'est d'assumer qu'elle est différente. Et elle va avoir une force particulière. Elle va devoir agir de l'intérieur avec les moyens du bord. Mais elle va pas choisir d'agir seule. Elle va choisir d'agir en coordination avec son peuple, avec ce groupe de croyants et les personnes qui lui étaient proches. Ensemble, c'était le mot d'ordre. C'est la force de ceux qui, dans l'adversité, s'obstinent à croire que pas tout est perdu qui leur permet d'aller de l'avant. C'est la force de ceux qui veulent croire qu'une seule personne, avec le soutien de la communauté de foi, peut faire la différence. C'est ça qui fait reculer le mal. C'est la force d'une communauté qui ne peut se désolidariser du groupe en faveur d'un bien-être individuel. C'est là que les choses se passent, pas dans les montagnes. Là où les choses deviennent difficiles, c'est là le foyer des héros. C'est là, dans les mots d'Esther, qu'on le comprend. Si j'ai de mourir, je mourrai. La force avec laquelle Esther va faire face à cette situation, ce n'est pas la sienne. Pas que la sienne. C'est aussi celle de sa communauté, de sa famille, de ses servantes qui vont s'unir en intercession ininterrompue pendant quelques jours. Le récit finit bien. Le récit finit bien. Les Juifs sont sauvés. La reine et son peuple sont tous sauvés. Le méchant de l'histoire, il va mourir. Il va tomber dans son propre piège. C'est formidable. Et paradoxe de paradoxe, le salut du peuple d'Israël en terre d'Israël a été procuré grâce aux Juifs qui étaient restés à Babylone. Parce que le décret les concernait eux aussi. Nous ne faisons pas face à des tragédies pareilles maintenant, ici, c'est certain. Toutefois, nous vivons une période déstabilisante pour notre société, pour nos concitoyens. Un certain nombre d'entre eux ont été touchés dans leur santé et certains aussi ont perdu la vie, ce qui a laissé leur famille dans le désarroi le plus grand. Quel est notre rôle en tant qu'Église dans une situation pareille dans la ville où nous sommes? On va rester les bras croisés? Je pense que notre rôle n'est pas celui de fuir dans les montagnes car des temps difficiles arrivent. Je pense que notre rôle est celui de rester pour aider la société dans laquelle nous vivons, pour l'aider à faire face aux aléas de la vie. Je pense que Jésus a suscité son Église pour être son image sur terre, porteur de bien-être, du sens et d'espérance, là où on en a le plus besoin. L'Église du Christ n'est pas faite pour donner le dos à une humanité qui a tant besoin de Jésus. Elle a été conçue justement, je pense, pour être le corps du Christ présent au milieu de ce monde et de cette société, tout comme Esther à Babylone. Et il faut tout faire pour que le salut divin touche dès à présent l'existence de tous ceux qui nous entourent. Je pense que nous devons tout faire, non seulement en tant qu'individu, mais surtout en tant que membre d'une communauté croyante et agissante, pour que l'espérance en Jésus ne soit pas seulement une affaire du futur, mais qu'elle devienne une réalité quotidienne. Pour finir, nous sommes, je suis convaincu, là où le Seigneur veut que nous soyons. Reste à savoir si nous saurons le comprendre et agir ensemble, car c'est ensemble que nous pourrons accomplir notre rôle, accroître notre foi qui, elle, deviendra suffisamment forte pour nous porter lorsque les choses se compliqueront. Ça finira par arriver un jour. Finalement, en citant Mardochée, peut-être que nous sommes venus pour une heure comme celle que nous vivons, pour apporter l'espérance. Là, il n'y en a plus. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous invite à nous mettre debout pour le dernier chant. C'est un grand délai.